L'actualité francophone avec RFI, avec la radio-télévision suisse, avec la RTBF, avec Radio-Canada et France Inter. Au programme aujourd'hui, on verra comment la région bruxelloise veut faire baisser la pollution et limiter l'accès aux véhicules diesel. Nous irons aussi en République démocratique du Congo, où l'Église aussi se mobilise contre le maintien au pouvoir du président Kabila. Au programme également, la Suisse, qui veut enrayer la baisse du nombre d'adoptions, le Canada, qui se prépare à légaliser la marijuana, et en France, l'émotion et les demandes de sanctions après le passage à tabac d'une policière frappée à terre par des émeutiers. Voici l'actualité francophone, bienvenue à tous. La Suisse change chaque année de président de la Confédération et cette année, c'est le socialiste francophone Alain Berset qui endosse la fonction. Et l'une de ses premières tâches, Vincent Bourquin, ce sera de choisir la photo officielle du gouvernement.
Oui, ces photos sont très attendues. Elles révèlent la personnalité du président. C'est en effet lui qui choisit l'auteur de ce cliché ainsi que la mise en scène qui change chaque année. Âgé de seulement 45 ans, Alain Berset a voulu donner une image de ministre moderne et novateur. Pour la première fois, cette photo officielle est animé. Derrière les membres statiques du gouvernement, un fond se transforme en dessin animé ou livre pour enfants avec des références bien suisses comme des trains qui s'enfilent dans des tunnels, une soucoupe volante tentant de s'emparer du siège du Parlement. Il y a des téléphériques, des éoliennes et même une grenouille en habit militaire. Alain Berset a aussi voulu prouver qu'il avait de l'humour.
Pour RFI, Charlotte Hydrac, voici cette rocambolesque évasion d'un Français. Ça se passe à Madagascar.
Oui, sa photo est affichée sur des avis de recherche sur la grande île, mais aussi Narfa a regagné la France cette semaine. Cet homme de 54 ans s'occupait de la formation de la garde présidentielle depuis novembre 2015. Il est arrêté en juin 2017, notamment pour détention d'armes et usurpation de fonctions. Lui se présente comme conseiller du président malgache et se dit victime d'une machination. Il raconte avoir monté un plan avec des complices pour fuir en pirogue d'abord, direction Mayotte avant de s'envoler pour la métropole.
Laurent Thérien, au Canada, quelle est la personnalité qu'il faudra suivre cette nouvelle année?
Alors, c'est le réalisateur Xavier Dolan, maintenant bien connu dans toute la francophonie et de plus en plus populaire aux États-Unis. Le premier film en anglais du jeune réalisateur doit sortir au cours de l'année 2018. C'est l'histoire d'une vedette américaine de cinéma dont la correspondance avec un acteur de 11 ans est rendue publique, un événement qui détruit sa vie et sa carrière. C'est à suivre dans les prochains mois.
En Belgique, Nathalie Devic, et on va rester dans le cinéma avec cette semaine, vous épinglez donc deux personnalités pour le prix d'une.
Eh oui, les frères Dardenne, Luc et Jean-Pierre, cinéastes devenus icônes de la culture belge, ils ont écrit cette semaine dans la presse une carte blanche sous forme de lettre ouverte au Premier ministre Charles Michel, lui demandant la démission du secrétaire d'État à l'asile et la migration, Théo Franken, après le renvoi de migrants soudanais dans leur pays, où ils ont été torturés. L'affaire ici fait grand bruit, les critiques fusent, mais le Premier ministre continue à défendre la politique migratoire de son gouvernement. Les réalisateurs, soutenus par un nombre grandissant de protestataires menacent de descendre dans la rue. Ils accusent le gouvernement de se montrer indigne et d'avoir perdu son sens de l'honneur.
En France, la personnalité de la semaine est australienne, l'actrice Cate Blanchett. Elle a été choisie pour présider le prochain festival de Cannes en mai prochain. Une présidente engagée, car Cate Blanchett est devenue l'une des figures de proue de la lutte contre le harcèlement sexuel dans la profession. Elle a même été l'une des premières célébrités à témoigner contre le producteur américain Harvey Weinstein. Cate Blanchett sera la 11e femme à présider le festival de Cannes. Ce sera donc la 71e édition entre le 8 et le 19 mai prochain. En Belgique, Nathalie Devic, la capitale se dote donc de nouvelles mesures pour améliorer la qualité de son air de plus en plus pollué.
Et cette fois, ce n'est pas qu'une bonne résolution de nouvelle année. La mesure est active depuis le 1er janvier. Une zone appelée basse émission a été mise en place sur tout le territoire de la région bruxelloise pour en interdire l'accès aux véhicules diesel les plus polluants. Comme Paris, avec ses nouvelles vignettes, à Bruxelles, ce sont des caméras qui repèrent les véhicules dès leur entrée et au cours de leur déplacement. Les plaques d'immatriculation sont transmises à une base de données pour vérifier le bon respect des normes européennes, sous peine de sanctions. Un dispositif progressif, souligne la ministre bruxelloise de l'Environnement, Céline Frémaux.
C'est quelque chose qui est, je pense, réellement révolutionnaire par rapport à Bruxelles, qui est bien nécessaire aussi en termes d'amélioration de la qualité de l'air. Et donc, il nous semblait important de faire aussi adhérer les Bruxellois et les autres à cette mesure et donc de mettre en place ce dispositif de façon évolutive. Et puis, 2019, d'autres périodes jusque 2025, avec la restriction au territoire bruxellois des véhicules les plus polluants.
Petit à petit, donc, en fonction de leur âge, les véhicules les plus polluants disparaîtront de la circulation avec des amendes dissuasives, 350 €. L'objectif est de renouveler d'ici 2025 plus de 30% du parc automobile de la capitale qui souffre d'une qualité de l'air de plus en plus problématique pour ses habitants. D'ailleurs, les Belges n'ont apparemment pas attendu pour prendre les devants. En 2017, pour la première fois depuis 20 ans, les voitures essence sont mieux vendues que les diesels. Le scandale des moteurs Volkswagen n'y est sans doute pas étranger, mais plus encore sûrement l'alignement des prix des deux carburants dès cette année dans tout le pays, voulu fiscalement par le gouvernement.
Charlotte Hydrac pour RFI, retour sur le bras de fer en République démocratique du Congo, bras de fer entre l'Église catholique et les autorités.
Oui, des bombes lacrymogènes lancées en pleine messe, des enfants de cœur interpellés. C'était dimanche dernier, le 31 décembre. L'Église a montré sa capacité à mobiliser avec un appel des catholiques à des marches contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila, dont le mandat a expiré fin 2016. Des marches interdites, Internet a été coupé, les forces de l'ordre sont intervenues. Sœur Joséphine n'avait jamais vu ça.
Subitement, on a vu des militaires qui commençaient à tirer. Ça fait mal quand on voit les gens qui vont pour prier, pour que les élections puissent bien se passer. Et maintenant, on commence à traumatiser les gens, à tirer comme ça. Ça nous écœure et ça nous fait mal.
Le bilan de cette journée varie selon les sources. 5 tués selon l'ONU, 12 selon les organisateurs. Aucun lié aux marches selon la police. L'archevêque de Kinshasa, le très influent cardinal Monsengo, a dénoncé une barbarie. Mais pour la majorité présidentielle, l'Église est sortie de son rôle. Son porte-parole, Ardan Kabambi.
Le rôle ou la mission prioritaire de l'Église, c'est de pouvoir réunir les fidèles, réunir la classe politique congolaise qui est aujourd'hui déchirée, rester neutre, puisque nous constatons effectivement que l'Église catholique est en train de se rallier à l'opposition politique.
Pour les autorités, l'heure n'est pas aux marches ni au débat sur le calendrier, mais à la préparation des élections finalement fixées en principe au 23 décembre 2018.
En Suisse, le nombre d'adoptions ne cesse de reculer. Elles ont diminué de plus de moitié en 13 ans. Eh bien, une nouvelle loi sur le droit à l'adoption est entrée en vigueur le 1er janvier. Une mesure notamment pour enrayer cette baisse spectaculaire, Vincent Bourquin.
Oui, l'un des principaux changements, c'est la limite d'âge pour pouvoir adopter, qui passera de 35 à 28 ans. Les candidats suisses figuraient, en comparaison avec les autres pays occidentaux, parmi les plus âgés, ce qui était clairement un handicap sur ce qu'une spécialiste appelle le marché international de l'adoption. Par ailleurs, il suffira au couple d'être marié depuis 3 ans et non plus 5 pour pouvoir entrer dans ce processus.
Avec un changement de taille dans la nouvelle loi, puisque les concubins et les personnes pacsées pourront aussi adopter.
Mais attention, hein, seulement les enfants de leur compagne ou de leur compagnon, ce qui est déjà considéré comme une grande avancée ici, car cette réforme acceptée par le Parlement avait été combattue, mais les milieux conservateurs ne sont pas parvenus à réunir les 50 000 signatures nécessaires pour que le peuple suisse vote sur cet objet. Par contre, en Suisse, contrairement à ce qui se passe dans de nombreux pays, l'adoption d'enfants extérieurs au couple pour les homosexuels et les concubins est interdite.
Alors pour revenir au fond à ce fort recul du nombre d'adoptions en Suisse, comment est-ce que ça s'explique ?
Alors il y avait ces règles extrêmement strictes, d'où cette modification de la loi, mais il y a bien sûr d'autres raisons, comme le développement social des pays d'où venaient traditionnellement les enfants, comme par exemple l'Inde, un pays qui privilégie désormais l'adoption nationale. La convention de la Haye, qui n'a été ratifiée par la Suisse qu'en 2003 et qui veut éviter les abus dans ce domaine, explique aussi ce recul.
Et pourtant, Vincent, en Suisse, il y a de plus en plus de demandes d'adoption.
Tout à fait, elles sont sans cesse en hausse malgré les progrès de la procréation médicalement assistée. Et l'adoption nationale est loin de répondre aux attentes. Une moyenne de 30 enfants nés en Suisse sont confiés chaque année à l'adoption nationale, ce qui est un chiffre stable.
Laurent Thérien, au Canada, l'événement que l'on va suivre chez vous dans les prochains mois, c'est la légalisation de la marijuana.
Oui, une promesse phare du premier ministre Justin Trudeau, mais qui s'avère plus difficile que prévu à concrétiser. Les villes et les provinces canadiennes se plaignent notamment de devoir mettre en place tout un ensemble de règles et de mécanismes pour encadrer la consommation du cannabis, et ce, dans un délai qui est très court. La marijuana doit être légalisée au mois de juin ou au plus tard en juillet. La date exacte n'a pas encore été annoncée. Justin Trudeau fait le pari que légaliser le cannabis va permettre d'assurer la sécurité des jeunes qui en consomment et de réduire les revenus du crime organisé. Le gouvernement fédéral s'est engagé il y a quelques semaines à verser 75 % des revenus liés à la vente du cannabis aux provinces.
Et est-ce qu'on sait au Canada comment on va vendre cette marijuana et qui va s'en charger?
Alors, ça diffère d'une province à l'autre. Au Québec, ce sera la Société des alcools qui sera responsable de distribuer et de commercialiser le cannabis, mais uniquement en ligne et par le biais d'une filiale non commerciale. Donc, son mandat ne sera pas de faire des profits. Si jamais elle tire un bénéfice, il sera systématiquement redistribué à des organismes qui font la prévention des effets néfastes de la drogue. Pendant ce temps, c'est la ruée vers l'or pour les producteurs agricoles canadiens qui sont de plus en plus nombreux à investir dans la production de la marijuana dans l'espoir de devenir des fournisseurs pour le gouvernement. Un dossier qui continuera à faire couler beaucoup d'encre cette année, c'est certain.
L'émotion cette semaine en France après le passage à tabac d'une policière frappée à terre par quelques émeutiers qui voulaient en découdre avec les forces de l'ordre. Ça s'est passé dans la commune de Champigny-sur-Marne, près de Paris. La scène a été filmée par des téléphones portables avant de faire le tour d'Internet. L'un des collègues de la policière a également été frappé et les agresseurs ont pris la fuite. Alors, ce qui inquiète les syndicats de police en France, c'est le fait que l'uniforme non seulement n'inspire plus le respect chez certains jeunes, mais pire, l'uniforme peut devenir la seule raison d'attaquer les forces de l'ordre. Et comme les policiers n'ont pas le droit de manifester en France, eh bien ce sont leurs épouses qui sont descendues dans la rue cette semaine pour dire leur inquiétude.
On se dit que demain, ça peut être un autre mari. Hein. Quand ils patrouillent dans les quartiers dits sensibles, c'est des jets de pierre, c'est des boules de pétanque. Hein. Donc, il y en a marre.
Rien n'a changé. Il y a eu Viry-Châtillon il y a un an, un peu plus. Et rien ne change. Ça fait 15 ans que mon mari, quand il était en banlieue, il fallait faire attention parce qu'on leur balançait des fours ou des machines à laver sur les voitures.
Parfois, vous avez envie qu'il arrête?
Ah oui, c'est pas parfois, c'est tout le temps, oui.
Et après l'agression des deux policiers cette semaine en France, eh bien, le Premier ministre s'est dit horrifié. Horrifié par la violence, horrifié aussi par l'inaction de tous ceux qui regardaient la policière à terre, en train de recevoir des coups de bâton et des coups de pied. Édouard Philippe prône une grande sévérité judiciaire et pénale contre les auteurs. Et il envisage, le Premier ministre, encore plus de policiers disponibles sur le terrain. Voilà donc pour le tour d'horizon de l'actualité francophone. Merci aux contributeurs de Suisse, de RFI, du Canada, de Belgique et de France. Le prochain rendez-vous francophone, ce sera la semaine prochaine au même endroit et à la même heure.